RFI, 9h à Mamoudzou, 7h à Paris et Belgrade, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Alban Leprince.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une, journée de deuil national ce lundi partout en France après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 35 morts à Mayotte. Nous rejoindrons dans un instant les envoyés spéciaux de RFI sur place. Deux semaines après la chute de Bachar al-Assad, le ministre turc des Affaires étrangères était à Damas en Syrie hier où il a appelé à la dissolution des groupes armés kurdes, y compris les alliés des États-Unis. Les États-Unis qui vont suivre de très près l'audition de Luigi Mangione, accusé d'avoir assassiné en pleine rue au début du mois le patron d'un géant de l'assurance santé. Le jeune homme de 26 ans vu par certains Américains comme un justicier. Et puis ce mouvement de colère en Serbie après l'effondrement du toit d'une gare le mois dernier qui a fait 15 morts. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Belgrade contre la corruption et pour la démission du gouvernement. Reportage dans ce journal.
Journée de deuil national ce lundi en France.
10 jours après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 35 morts et 3000 blessés à Mayotte, bilan plus qu'incertain et provisoire. Une minute de silence doit être observée dans tout le pays à 11h heure de Paris. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à Mayotte avec Jadel Khoury. L'eau et la nourriture arrivent au compte-gouttes et parfois pas du tout, comme dans le bidonville de Magicavo Coropa au nord de Mamoudzou.
Oui, et pour se rendre dans ce bidonville perché sur une colline, il faut monter le long de petits chemins en terre. Dans un bruit de tôle et de marteau, les habitants reconstruisent leur case à l'identique comme avant le passage du cyclone. Mais c'est simple ici, depuis une semaine, personne n'a vu d'aide arriver. Si l'eau potable est en partie revenue dans le quartier, la nourriture manque et les secours sont absents. Nous avons par exemple pu croiser hier deux femmes, l'une blessée à un pied, une autre la main entaillée. Toutes les deux affirment ne pas avoir reçu de soins.
Et à Magicavo comme ailleurs, les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver les victimes du cyclone. Vous avez d'ailleurs suivi une enseignante, elle recherche tant bien que mal ses élèves.
Bon, si tu vois des élèves qui étaient au collège de Magicavo, tu leur demandes de descendre au collège. Déjà, on peut vous donner à manger. Et en fait, c'est juste pour savoir qui est OK, d'accord ?
Depuis 5 jours, Sarah arpente les rues du bidonville à la recherche de ses élèves sur son téléphone. Des photos, des listes de noms qu'elle montre aux habitants.
Est-ce que là, il y en a que tu as vu ?
Azmir.
Oui, Azmir. Il est où ?
Il habite au Samba.
Et Siam et tout ? T'as pas vu ? Non. Ok, ça marche.
Sur les 1700 élèves de son collège, 1400 manquent à l'appel.
Ils ne répondent pas. Plusieurs cas de figure, pas de téléphone, pas de réseau. Deuxième cas de figure, ils sont allés se réfugier quelque part, mais on ne sait pas forcément où. Troisième cas de figure, ils sont dans une zone où ils n'arrivent pas à descendre jusqu'au collège parce qu'elle est encore trop encombrée des dégâts du cyclone.
Mais pour l'enseignante, impossible d'exclure une dernière option.
C'est sûr qu'il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas, juste au visuel des tôles qu'on a en face de nous. Je pense que même si certains avaient survécu au cyclone, tenir une semaine en étant blessé sans boire et sans manger, je pense qu'on a forcément des victimes. Où sont passés les gens ?
Hors micro, des habitants confient que des corps auraient été enterrés juste après le passage du cyclone. Des informations impossibles à vérifier tant que les secours n'auront pas inspecté ces quartiers informels à la recherche des disparus.
Nicolas, on vous retrouve en direct de Mamoudzou. On vient d'entendre votre reportage auprès de cette enseignante et ce bilan terrifiant sur les 1700 élèves de son collège. 1400 manquent toujours à l'appel plus d'une semaine après le passage de Chido. Et c'est dans ce contexte que la journée de deuil national a lieu aujourd'hui.
Oui, drapeaux en berne et minute de silence à 11h heure de Paris. 2 heures de plus ici à Mayotte. Les Français sont invités à se recueillir. Hommage au Sénat à Paris et dans le même temps à plus de 8000 km de là. Une cérémonie est organisée dans le centre de Mamoudzou. Alors ce deuil national sera-t-il suivi ici ? C'est loin d'être sûr hein, parce que ces hommages organisés d'ordinaire dans des bâtiments publics, des écoles, des administrations, et bien ces bâtiments très endommagés sont pour la plupart fermés. Sans compter que les habitants, eux, ont aujourd'hui d'autres priorités, reconstruire et encore pour beaucoup survivre.
Merci beaucoup Nicolas Feldman, envoyé spécial de RFI à Mayotte avec Jadel Khoury.
Et cette journée de deuil national, la situation à Mayotte, on en reparle après ce journal avec notre grande invitée internationale de ce jour, Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte.
Alors, est-ce aujourd'hui jour de deuil national que François Bayrou, le Premier ministre français, va annoncer la composition de son gouvernement? Il a promis de le faire avant Noël. La fenêtre de tir est donc réduite. Il a échangé plusieurs fois avec Emmanuel Macron hier. Les derniers réglages sont en cours, fait savoir son entourage.
Deux semaines après la chute de Bachar al-Assad, le nouvel homme fort de la Syrie annonce que toutes les armes du pays vont passer sous le contrôle de l'État et dit œuvrer à la protection des minorités.
Déclaration en marge d'une rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a notamment appelé à la dissolution des groupes armés kurdes en Syrie. Les précisions d'Abla Jounaïdi.
Ankara demande à Damas de désarmer les YPG, les combattants kurdes qui évoluent de l'autre côté de la frontière. Alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, ils sont qualifiés de terroristes par la Turquie. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE à Damas et Ankara.
On sent bien que la Turquie est sensible aux appels occidentaux de ne pas créer plus de souffrances pour atteindre leurs objectifs. Et le ministre Fidan dit clairement, ça va dépendre de quels arrangements ils font à Damas. Si c'est satisfaisant pour la Turquie, très bien. Si ça dure trop longtemps, on va bien devoir prendre des mesures.
Désarmer les milices, c'est ce qu'ambitionne de faire le jeune gouvernement intérimaire syrien. Mais cela ne doit pas se faire par la force. Khaled Issa, envoyé spécial en France de la région autonome kurde de l'Est syrien, le Rojava.
Je pense qu'on peut, avec le dialogue, résoudre tous les problèmes entre les Syriens. Et j'espère que les autorités de Damas ne vont pas accepter la mainmise totale de l'État turc, un État voisin, mais malheureusement, elle convoite une partie de territoire de notre État syrien.
Pressé d'agir, le ministre turc depuis Damas a interpellé directement le futur président américain Donald Trump pour que Washington abandonne son soutien aux combattants kurdes.
Abla Jounaïdi.
1h07 à New York aux États-Unis.
Bientôt 3 semaines après l'assassinat en pleine rue dans le cœur de Manhattan du patron d'un géant de l'assurance santé aux États-Unis, Luigi Mangione, son meurtrier présumé, doit être présenté à un juge aujourd'hui. Une audience qui sera suivie de très près, le récit de Lubna Anaki.
La semaine dernière, Luigi Mangione comparaissait pour la première fois devant un juge fédéral de New York. Aujourd'hui, c'est à la Cour suprême de l'État de New York qu'il sera entendu. Car Luigi Mangione est poursuivi à deux niveaux, au niveau fédéral et au niveau local par l'État de New York. Deux affaires en parallèle pour le meurtre présumé début décembre de Brian Thompson, le patron de United Healthcare, une compagnie d'assurance maladie dont le jeune homme de 26 ans est soupçonné d'avoir voulu se venger. Aujourd'hui, le juge lui présentera les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment, je cite, le chef d'accusation de meurtre lié à un acte de terrorisme. Cette affaire continue de fasciner les Américains, parmi lesquels un grand nombre voient en Luigi Mangione un héros contre le pouvoir des entreprises privées d'assurance maladie. Une cagnotte mise en place pour l'aider à payer ses frais judiciaires a dépassé les 150 000 dollars. Lubna Anaki, New York, RFI.
Luigi Mangione qui risque la prison à vie et même la peine de mort d'après le ministère américain de la Justice.
En Serbie, après l'effondrement le mois dernier du toit pourtant tout juste rénové d'une gare qui avait fait 15 morts, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier contre la corruption.
Elles étaient 29 000 à Belgrade selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 d'après un agrégateur indépendant a réclamé la démission du gouvernement. Le reportage du correspondant de RFI, Laurent Rouy.
À l'appel des étudiants et d'agriculteurs, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Belgrade pour réclamer la fin de la corruption et de l'impunité des responsables politiques. Yelena, une belgradoise mère d'un lycéen en grève, est venue apporter son soutien.
Cette manifestation va sûrement apporter des changements. Je ne serais pas ici si je n'y croyais pas. On voit bien que rien de tout ça n'était prévu et que c'est de mieux en mieux. Il y a tellement de jeunes, de gens intelligents, les revendications sont parfaites.
Des agriculteurs ont fait le déplacement. Zlatko Kokanovic, une figure de la lutte contre un projet de mine de lithium, est venu en tracteur, ce qui lui a valu quelques déboires avec la police. Sa motivation est intacte.
Nous sommes en lutte pour la survie des agriculteurs et contre le projet de mine de lithium. Ce sont les mêmes responsables pour tous ces problèmes. C'est une seule lutte. On est là pour nos enfants. On veut que nos enfants vivent dans un pays où règne l'état de droit.
La manifestation immense est restée statique. Pour Miloche, un étudiant, il y a là une occasion manquée de faire pression sur le gouvernement.
Le mouvement doit se radicaliser. On a bloqué un peu la circulation et rien d'autre pour l'instant. Il faudrait qu'on se rende devant les institutions de l'État. Il faut qu'on se radicalise.
Une prochaine protestation est prévue à Belgrade mercredi. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
RFI qui vous le révélait en fin de semaine dernière, une vente aux enchères organisée vendredi à Paris proposait de nombreux objets anciens et notamment la récate du roi Béhanzin.
Une sorte de sceptre traditionnel qui aurait été offert aux troupes coloniales françaises après avoir soumis le royaume. Une version contestée, mais à la suite de la diffusion de notre sujet, les autorités béninoises se sont mobilisées pour suspendre la vente. Le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, souhaite sa restitution.
Le Bénin a appris qu'il y avait la vente de deux objets, le goubassa du roi Béhanzin, c'est un sabre, et son mako, c'est-à-dire un sceptre. Le Bénin, avec l'appui du ministère français de la Culture, a obtenu la suspension de la vente aux enchères. Tous les objets qui ont été pillés à l'époque ne se retrouvent pas systématiquement dans les collections publiques de la France. Il y a plusieurs objets qui sont aux mains de confessions religieuses et de personnes privées.
En l'occurrence, est-ce que le Bénin pourrait se porter acquéreur ou est-ce que ce sont d'autres mécanismes de restitution qui sont privilégiés ?
Nous ne nous mettons pas sur le marché parce que le Bénin n'a pas vocation à faire monter des enchères, mais nous utilisons tous les mécanismes possibles et légaux, bien évidemment, pour pouvoir obtenir ces rapatriements. Nous sommes en discussion, non seulement avec les autorités françaises, avec la famille concernée et également avec la maison de vente.
Jean-Michel Abimbola, ministre béninois de la Culture, joint pour RFI par David Baché. On termine ce journal en musique avec un classique revisité. Jean-Sébastien Bach fait son comeback. C'est le nom de ce spectacle musical insolite à l'affiche du Lucernaire à Paris. Quatre chanteuses et musiciennes cassent les codes de la musique classique pour rendre hommage au génie baroque dans un style plus moderne que jamais. Carmen Lunzmann y est allée pour RFI.
Bach, c'est un peu le père de tous les compositeurs. C'est un grand monument. Il a tellement inventé de choses. Bach est un peu jazz. C'est un compositeur où tout est possible.
Société comme Bach, bonjour.
Que ce soit dans les ascenseurs, à l'aéroport ou lors d'attentes téléphoniques, Bach n'a jamais été aussi vivant, même près de 3 siècles après sa mort. C'est le constat amusant et entraînant de 4 virtuoses qui revisitent les plus grands tubes du compositeur allemand, au corps anglais majestueux ou au mélodica, sorte d'harmonica avec tuyaux et claviers dont elles sortent allègrement les gammes les plus époustouflantes, tout en rajoutant quelques notes biographiques dans le récit.
Avec 20 enfants, on peut s'arrêter ?
Amandine Dehan, contrebassiste, et Anne Baquet, soprano.
On raconte pas vraiment sa vie, mais on navigue entre les notes qu'il a composées, on les détourne un peu, on s'en amuse beaucoup.
De toute façon, plein de compositeurs étaient inspirés par Bach. Même les Beatles, forcément, n'auraient pas évolué de cette manière si Bach n'avait pas été là.
Comeback, le spectacle musical, c'est à découvrir jusqu'au 12 janvier au Théâtre Lucernaire à Paris.
Merci Alban Le Prince, à tout à l'heure. Lundi 23 décembre 2024, bienvenue à vous, RFI Matin. 2 heures d'information et à suivre dans moins de 20 minutes un nouveau point sur l'info africaine et ces combats violents qui se sont poursuivis hier en République démocratique du Congo entre l'armée et le M23 dans le territoire du Lubero. Correspondance d'Héritier Baraka dans le prochain journal à 7h30 heure de Kinshasa. On en parle aussi avec notre grand invité Afrique, le directeur de Médecins Sans Frontières en RDC, Emmanuel Lamparte, dans une demi-heure. À 2 jours de Noël, RFI. Fille, vous faites aussi entendre les préparatifs de cette fête un peu partout dans le monde. Dans 1 heure, on part au Québec où les sapins de Noël souffrent du réchauffement climatique. Un peu plus tard, nous serons à Lubumbashi. Vous entendrez les préparatifs des chorales dans la ville. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Victor Messistrano.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le football en Angleterre, tout d'abord, Liverpool continue de s'affirmer comme la meilleure équipe d'Europe cette saison.
Les Reds passeront les fêtes au chaud, ils prennent le large en tête de la Premier League grâce à une victoire impressionnante hier à Tottenham, 6-3, avec encore une fois un immense Mohamed Salah. 2 buts et 2 passes décisives pour l'Égyptien, décidément en état de grâce cette saison. À la fois meilleur buteur et passeur du championnat, il totalise déjà 15 réalisations et 11 passes. Son entraîneur Arne Slot n'est pas surpris par les performances de l'ailier égyptien qui sont le fruit d'un grand professionnalisme.
Mo a juste montré ce qu'il montre depuis tant d'années à Liverpool, que l'équipe n'a qu'à le servir dans cette zone où il peut toujours marquer ou faire une passe décisive. Et au-delà du super joueur qu'il est, c'est une personne avec qui il est agréable de travailler. Il est toujours là pour aider ses coéquipiers. Et c'est quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis sûr qu'il est déjà en train de travailler pour bien récupérer. Il sait très bien ce que ça demande d'être à un tel niveau tous les trois jours.
Et au classement, Liverpool creuse le trou, désormais 4 points d'avance sur Chelsea. Fin de série pour les Blues, ils restaient sur 5 victoires de rang, ils ont fait match nul sur la pelouse d'Everton 0-0. Et puis euphorie de courte durée pour Manchester United. Une semaine après la victoire lors du derby contre City, déroute des Red Devils à Old Trafford, battu 3-0 face à Bournemouth. Les Red Devils qui ne sont que 13e, Julien.
L'autre équipe qui impressionne l'Europe est actuellement en tête du championnat d'Italie.
L'Atalanta Bergame qui a repris les commandes grâce à une 11e victoire consécutive en Serie A. Succès à l'arraché 3-2 face à Empoli. Le meilleur joueur africain de l'année, Ademola Lookman, a inscrit son 9e but de la saison. En Espagne, le Real Madrid double le Barça et revient à un point du leader, l'Atlético. Les Merengues ont disposé du FC Séville 4-2. Kylian Mbappé a ouvert le score d'une magnifique frappe puissante aux 20 mètres. Les autres buteurs du Real, Valverde, Rodrigo et Brahim Diaz, sur un service de Mbappé. Ce dernier qui retrouve des couleurs, il a été désigné homme du match.
Et puis ce week-end, il y avait aussi de la Coupe de France. Les 32e de finale donnent lieu à des matchs déséquilibrés entre professionnels et amateurs. Affiche plus classique hier soir.
Le Paris Saint-Germain jouait à Lens, les deux équipes qui ont dû se départager au tir au but après un nul un partout. Le gardien parisien Matvei Safonov a stoppé les deux dernières tentatives lensoises. Écoutez les regrets de Florian Sotoca.
Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été à la hauteur de l'événement. Je pense qu'en première, on a été un peu timide. On sait que les pénaltys, c'est cruel. Aujourd'hui, ça a tourné pour eux, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on peut garder la tête haute, mais on a beaucoup de regrets parce qu'on savait que passer ce tour-là, après, on ne sait jamais les tours d'après, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Voilà, les Lillois, Florian Sotoca. Enfin, dans un autre duel entre pensionnaires de Ligue 1, Julien, Marseille est allé donner une leçon à Saint-Etienne. 4-0 pour se qualifier en 16e.
Merci Victor Missistrano, à tout à l'heure. C'est un marché qui a amassé 109 milliards de dollars en 2023, en cette semaine de Noël. Aujourd'hui, l'économie entame ce matin une série consacrée à l'industrie du jouet et ce qu'elle dit de notre époque. Et cap pour commencer sur le principal contributeur de ce marché mondial, la Chine, et ses 79% de la production des jouets vendus notamment à prix cassé via les sites chinois de commerce en ligne, qui présente dans de nombreux cas un réel danger pour la sécurité des enfants. C'est ce que soulignent les fédérations européennes et françaises du secteur. Reportage dans le sud-est de la Chine de notre correspondante Cléa Broderst.
Dans l'immense centre d'export d'Yiwu, il y a des milliers de petits magasins de jouets. Vous y trouverez des peluches, des jouets en bois, des cerfs-volants, de quoi faire des heureux sous le sapin de Noël. Seulement, les jouets chinois ont parfois mauvaise réputation. Et pour cause, certains revendeurs, anonymes, confient qu'ils ne font pas toujours attention aux réglementations imposées par l'Union européenne lorsqu'il s'agit de leurs produits.
Le sigle CE n'a pas d'importance. Si vous avez besoin du CE, nous pouvons imprimer une étiquette pour vous si c'est nécessaire. À Yiwu, ce sont tous des faux. Où pourriez-vous trouver des étiquettes authentiques? Si vous avez des exigences spécifiques, nous pouvons les imprimer très facilement et fabriquer les étiquettes pour vous.
Certains produits ne requièrent pas de certification particulière, comme nous l'explique Li.
Les cerfs-volants, par exemple, n'en ont pas besoin parce qu'ils sont simplement fabriqués en nylon. Les pistolets à eau, en revanche, peuvent nécessiter des certifications dans certaines régions, mais nous disposons des certificats nécessaires.
Le marché européen demeure primordial pour ces commerçants. Pour Wu, qui représente une usine locale de jouets, pas question de déroger aux réglementations.
J'ai tous les certificats EN71 et CE, je les ai tous. Mes produits sont locaux, j'ai les certificats, ils sont tous approuvés, justement parce que j'exporte principalement en Europe. L'Europe représente une part importante du marché, de l'ordre de 70 à 80%.
La question demeure, ces jouets présentent-ils un danger pour les enfants ? Yue balaye l'hypothèse d'un revers de la main.
Ce n'est pas du tout le cas.
Le marché est tellement grand et axé sur le commerce extérieur que tout le monde fait attention à l'impact. Mais nous vous le dirons clairement, si une certification est nécessaire, vous devez vous en charger vous-même. Nous ne nous occupons pas de ces processus. Nous produisons des jouets depuis de nombreuses années et nous n'avons jamais rencontré de tels problèmes. Tout est conforme aux normes de sécurité.
Son voisin, attentif, nous lance.
Il est impossible que les jouets soient toxiques. On les offre aussi aux enfants chinois. Ce n'est pas seulement pour l'Europe.
Dans la chaîne d'approvisionnement, chaque acteur, du fabricant au détaillant, joue un rôle dans le respect des règles de sécurité. Mais selon les commerçants d'Iwu, c'est le fabricant qui porte la responsabilité principale en veillant à la conception, à la production et au contrôle pour garantir la conformité. Si les produits quittent l'usine en toute sécurité, cela augmente les chances que les consommateurs européens soient protégés tout au long de la chaîne. Cléa Broderst, Iwu, RFI.
Aujourd'hui, l'économie est notre série consacrée aux jouets en cette semaine de Noël qui continue demain. 9h20 à Mamoudzou, c'est aujourd'hui 10 jours après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte. Une journée de deuil national décrétée aujourd'hui en France avec une minute de silence tout à l'heure à 11h, heure de Paris. Mais pour combien de morts? Le bilan reste encore partiel et très probablement largement sous-estimé. 35 morts et environ 2500 blessés. Et voilà 10 jours aussi que la population attend et s'impatiente alors que l'aide et nommément l'eau et la nourriture arrivent toujours au compte-gouttes et pas partout. On fait le point ce matin avec notre invité. Bonjour Estelle Youssoufa.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes députée Liotte de Mayotte. Après de premières distributions de packs d'eau ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promettait hier matin que 90% de la population serait reliée à l'eau d'ici la fin du week-end. Nous y sommes, lundi matin. Où en est-on aujourd'hui?
Il n'y a toujours pas d'eau dans tous les foyers à Mayotte. Et quand le gouvernement est en train d'expliquer sur les ondes ici à Paris que... tout revient à la normale, qu'il y a la sécurité, l'eau, des distributions alimentaires à Mayotte, c'est du pipeau. Et c'est scandaleux. C'est une honte de continuer à alimenter une propagande mensongère par rapport à la situation à Mayotte. Quand le gouvernement parle de remettre de l'eau, c'est de l'eau avec des coupures.
Ouais.
Puisqu'il y a les informations qui circulent selon lesquelles, oui, on vous remet de l'eau, mais vous aurez de l'eau une fois sur tous les trois jours. C'est quand même gravissime. On a un cyclone qui s'abat sur Mayotte et même de déclencher de l'aide et de mobiliser les moyens à hauteur, c'est un combat.
Mmh.
Alors qu'on voit une immense émotion, une solidarité, de l'empathie de la part de tout le pays, on continue à avoir le gouvernement qui se pavane sur les plateaux radio et télévision en expliquant que c'est la sécurité à Mayotte alors qu'il y a des pillages jour et nuit dans les maisons, jour et nuit, qu'il y a des agressions même sur les secours, que l'insécurité est en train d'augmenter alors que nous, les élus, depuis le premier jour, on demande le déploiement de l'armée. On est en train de désosser Mayotte, d'empêcher que les gens puissent essayer d'accéder aux secours. On est en train d'avoir des caillassages avec les bandes armées qu'on connaît. On est en train d'aller sur les plateaux pour dire « il y a de l'eau à Mayotte » alors que les familles n'ont toujours pas vu l'ombre des premiers secours dans certaines zones les plus reculées. On continue à avoir des gens qui n'ont pas vu un médecin, qui n'ont pas vu une seule aide, qui ont les plus grandes difficultés à faire leurs courses. Et on entend ce discours de l'État ici comme si les secours étaient en train de se déployer. Excusez-moi, mais on est à plus d'une semaine après la tragédie, 10 jours après le cyclone.
L'autre question lancinante qui revient depuis 10 jours, Estelle Youssoufa, c'est celle du bilan. Il pourrait atteindre des milliers de morts, mais on n'en compte pour l'instant que 35 officiellement. Nul ne sait où sont les disparus. Comment expliquer qu'on en sache aussi peu ?
On en sait aussi peu sur les disparus des bidonvilles parce que c'est une population clandestine étrangère qui n'était pas répertoriée, qui avait fui les autorités, qui avait refusé de se mettre à l'abri parce qu'elle pensait qu'elle allait être prendre dans des expulsions. Mais nous qui habitons sur l'île, nous connaissons les bidonvilles. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui habitaient dans ces zones.
Un tiers de la population de Mayotte.
On ne voit aujourd'hui que quelques centaines de personnes dans ces bidonvilles qui sont devenues des amas de boue, de tôle et de débris. Donc, selon toute vraisemblance, ces personnes ont été ensevelies.
Et il y a la question.
Il faut arrêter de nier leur existence tant qu'il n'y a pas le bilan officiel qui parle du nombre de décédés parce qu'il faut retrouver les corps. Est-ce qu'il faut au moins à minima parler des milliers de disparus? Et je note aussi que personne n'est en train de réclamer ces gens qui ont disparu. Les autorités comoriennes, puisqu'il s'agit de ressortissants comoriens qui sont en situation irrégulière à Mayotte, les autorités comoriennes n'ont pas réclamé leurs ressortissants. On n'entend pas un seul appel des familles.
Mais il y a aussi
moi, je
la
suis
question
contactée
du
par
rôle
toutes
de
les
l'État.
Familles mahoraises. Excusez-moi, monsieur. Mais en fait, parce que moi, j'entends toutes les familles mahoraises et tout le monde se compte. Ces disparus sont non seulement invisibilisés par les autorités, mais elles le sont aussi par leur pays d'origine. Et ça, c'est un drame inhumain dans une tragédie qui est déjà insurmontable pour Mayotte.
Emmanuel Macron a passé 2 jours à Mayotte et il a fait face à la colère des habitants. Il s'est lui-même emporté avec ses propos très critiqués depuis. Si vous n'étiez pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, a dit le président devant des Mahorais. Que vous ont inspiré ces mots?
Vous savez, on n'a pas d'eau, pas de secours, pas d'électricité. Franchement, aller faire de la politique en ce moment, alors que le gouvernement, le Premier ministre, est omnubilé par son nouveau gouvernement et est capable de saccager cette journée de deuil national en nous humiliant une deuxième fois. Le Premier ministre qui a préféré un conseil municipal plutôt que d'assister à une réunion de crise sur Mayotte, qui n'est toujours pas venu à Mayotte et qui, là, s'apprête à nommer son nouveau gouvernement. Franchement, c'est une chance pour nous à Mayotte de ne pas avoir d'électricité pour entendre la pauvreté du niveau de la prise de conscience ici à Paris du gouvernement par rapport à la crise à Mayotte. C'est tellement méprisant, tellement humiliant, tellement indigne par rapport à la catastrophe qu'on subit, que moi je ne trouve pas les mots. Et je n'ai pas envie de passer ce temps avec vous sur RFI à parler de la médiocrité de la classe politique ici à Paris. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il faut envoyer des secours en masse à Mayotte, qu'il faut envoyer des militaires pour ramener l'ordre, pour qu'on évite, non seulement dans la crise humanitaire, de se retrouver dans l'anarchie.
Emmanuel Macron a promis une loi spéciale pour financer la reconstruction de l'archipel. L'exécutif a parlé d'un délai de 2 voire 3 ans. Ça vous paraît réaliste ?
On est condamné à reconstruire. Honnêtement, faire des plans sur la planète, je voudrais déjà qu'on survive.
Ce qui est aussi mis en cause aujourd'hui, vous avez commencé à l'évoquer, Estelle Youssoufa, c'est la politique adoptée par l'État depuis plusieurs années contre l'habitat précaire et l'immigration clandestine, les opérations de décasage qui ont créé, vous l'avez dit, un climat de méfiance des immigrés qui ne se sont pas rendus dans les abris.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Excusez-moi, mais ce n'est pas ce que j'ai dit.
Des immigrés. Laissez-moi terminer ma question. Des immigrés.
Je me suis battue pour détruire les bidonvilles. Parce que les bidonvilles, je l'ai dit, et ça fait des années que je le dis, les bidonvilles sont non seulement indignes de la République,
mais quand
ce
on
sont
voit
des
Estelle
terrains
Youssoufa.
Qui sont occupés illégalement. Monsieur, je vais terminer mon propos parce que RFI diffuse des informations sur Mayotte qui sont mensongères. Sur votre site, vous êtes en train de propager que Mayotte est comorienne, ce qui est faux. On a voté pour rester français, on est français depuis 1841.
Ce que dit RFI, c'est simplement que...
Vous me donnez mon micro et là, je vais vous dire que les bidonvilles, ça fait des années que les Mahoraises et les Mahorais dénoncent le fait que les populations qui sont dans les bidonvilles sont en danger parce que non seulement ce sont des zones qui sont occupées illégalement, mais en plus elles sont insalubres et dangereuses et on le voit avec le cyclone. Donc il ne va pas falloir retourner la situation et considérer que ces bidonvilles doivent être reconstruits alors qu'on a la preuve que ce sont des cimetières à ciel ouvert quand il y a des cyclones. Il faut à un moment prendre ses responsabilités et constater que oui, ces bidonvilles sont dangereux et ils ne peuvent pas être reconstruits.
Merci.
À un moment, il faut accepter la réalité et considérer avec humanité qu'on ne peut pas laisser dans la République se reconstruire des bidonvilles, alors qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont ensevelies là-dessous.
Merci Estelle Youssoufa, ce sera le mot de la fin, et je précise qu'RFI ne dit pas que Mayotte est comorienne, mais que les Comores revendiquent la souveraineté sur Mayotte, ce qui est différent. Bientôt 6h30, en temps universel.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, comment prévenir les risques liés au monde du travail? Comment faire reconnaître certaines maladies étant liées à l'activité professionnelle? Demain, la consommation du sucre peut entraîner divers problèmes de santé comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Quels aliments privilégier ou éviter?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Real World 3D Family et RFI Talent présentent les Amazones d'Afrique.
Découvrez Wadjo, le nouveau single de ces divas panafricaines, disponible sur toutes les plateformes.
Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi une île, continent ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec des scientifiques malgaches, à l'œuvre sur tous les terrains, pour étudier et préserver l'extraordinaire biodiversité de Madagascar. Ses forêts sèches et humides, ses hauts plateaux montagneux, tous ces écosystèmes uniques de l'île rouge. Comment les chercheurs malgaches s'engagent ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.